7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Seize.
Il est 8h44 et 45 secondes. Merci d'être avec nous. Dans 10 minutes, nous entamerons une discussion avec Rémy Tell. A-t-on besoin de politique ou de spirituel? Mais tout de suite, la chronique d'Alexandre de Galzin.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Alors Alexandre, vous n'étiez pas là la semaine dernière, on a dû trouver quelqu'un pour vous remplacer. Vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Je suis désolé Richard, mais j'ai été envoyé en mission spéciale à Budapest pour faire la fête.
Alors non, je crois que vous avez été envoyé là-bas pour faire un reportage pour Radio Courtoisie, si je ne m'abuse. D'ailleurs, j'ai vu ce reportage.
Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce reportage. Non, mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de pouvoir faire vivre au plus près la libération de la Hongrie fasciste. Je voulais me promener dans les rues de Budapest, une magnifique femme au bras, en vidant des bouteilles d'unicum ou de palinka, sans me soucier du lendemain, en chantant ça. Vous ne connaissez pas? Alors pour le coup, petite info, c'est un chant italien qui a été fait justement pour les massacres de Budapest en 56, par les communistes. Mais c'est génial cette chanson. Voilà, avanti ragazzi di bufala e due espresso para i lericchiotti dolce e Jordan Bardella della Calabria.
Alors, qu'est-ce que vous racontez, Alexandre?
Absolument rien qui vaille la peine d'être traduit, rassurez-vous. Non, mais... C'est que vous n'étiez pas ce soir sur la place Battiani, ce dimanche soir au milieu de la foule en liesse, d'une jeunesse pleine de vigueur et de beauté. Il faut dire que c'était quand même un petit peu comme si on assistait à la chute du mur de Berlin. Pour eux, la démocratie était sauvée. Fallait écouter notamment le candidat homosexuel pro-GPA et accessoirement ex-premier ministre Gabriel Attal, qui expliquait que l'extrême droite avait été battue dans les urnes et que les Hongrois avaient choisi l'état de droit et l'Europe. Pareil, on a eu la chef des cruches, Valérie Hayer, qui nous a expliqué que Peter Maguire partageait les fondamentaux avec Renaissance. Alors là, on était sauvés du spirit fasciste. C'était tip-top on the clock. Ouais, youpi-yop, je me grille une clope, youpi, ouais. Les centristes ont l'air assez fans d'ailleurs, hein, vu que... On regarde, le journal L'Express a parlé d'une victoire qui allait tout changer à Bruxelles, décrivant des scènes de liesse à la Commission européenne. Tout le monde est super content, c'est génial, c'est pas qu'une deuxième fois. Alléluia, je suis dans l'allégresse, car mon dieu, Peter Maya, Allah le bénisse, m'a libéré. Moi, la Hongrie, des chaînes de Satan, Belzébuth, Farinacci, Orban, le grand méchant tortionnaire de son peuple, et champion de la légion des démons et des flammes les plus rougeoyantes des sept cercles des enfers. L'Express nous emmène droit vers la lumière, devant der Leyen, où on a le droit à la théorie du ruissellement de Saint-Peter Maguire Midas. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et on peut le lire, l'argent de Bruxelles va ruisseler sur la Hongrie maintenant que le semi-divin Peter Maguire est au pouvoir. Non mais on a eu chaud. On a quand même évité 4 ans de plus avec un Mussolini d'un quintal quand même. Enfin bon. Entre ça et un Adolf Hitler de 75 kilos, je sais pas s'ils ont vraiment gagné au change, les progressistes.
Mais comment ça, un Adolf Hitler?
Oui, si Peter Maguire c'était un méchant fasciste, on appelle ça comment ce qui est à la droite d'un méchant fasciste? Eh ben, gentil nazi. Youpi, un nazi, c'est joli, tout gentil, oui, les nazis. Voilà, alors pareil, c'est un type qui m'a pas l'air d'être soupçonnable d'excès de progressisme, pour rien vous cacher, ce Peter Maguire. Donc, voilà, c'est quand même le genre de type qui a critiqué Viktor Orban en expliquant qu'il en faisait pas assez contre l'immigration. Le type s'appelle littéralement Pierre le Hongrois. Enfin, c'est un peu leur Charles de Gaulle, quelque part. Enfin, sur le côté giga fédéraliste européen, bon chien à Ursula, pas sûr de son coup. Donc voilà, pareil sur le progressisme, pour rien vous cacher, le mec est catholique et vient quand même de nommer en responsable du ministère de l'Éducation la chef du réseau d'écoles cisterciennes du pays en expliquant que, je cite, « c'est notre immense responsabilité de voir ce désir de Dieu chez les jeunes et d'y répondre ». Alors, avant t'avais une sorte de gros Mussolini calviniste et maintenant un Adolf Hitler catholique, mais gentil, attention hein, gentil, parce que oui, il partage les fondamentaux avec Renaissance, comme par exemple... les fondamentaux. Il y a notamment. Je suis sûr que ça va revenir. Peter Maguire est gentil, un point c'est tout.
Bon, très bien. Est-ce que vous avez une anecdote qui revient de votre reportage?
Eh ben, Ce qui est assez surprenant dans un meeting de campagne hongrois, donc j'ai été à un de ceux de Viktor Orban et de Peter Maguire, bon, c'est quand même qu'ils ont tous des torches et des drapeaux historiques du pays. Et puis, ils ont une langue absolument incompréhensible, ce qui fait qu'une fois sur deux, quand tu vois le chef du parti politique gueuler un peu, là, et toute la foule applaudir tout en beuglant en hongrois, tu te demandes s'ils sont contents parce que la TVA sur les produits de première nécessité a été réduite de 2,5%, ou si c'est parce qu'ils viennent d'entendre un appel au pogrom anti-gitan. Oui, alors là-bas, c'est un peu le problème. Hein. C'est qu'être gitan dans ce pays, en fait, mine de rien, il y en a quand même 500 000 en Hongrie. C'est pas rien. Et alors bon, les gitans, c'est un peu pareil qu'en France, mais disons que là, ils sont tout seuls. Alors on arrive à un point où un parti nationaliste qui s'appelle Mi Azanx a tout un volet de son pro, d'ailleurs qui est entré au Parlement, hein, on a tout un volet de son programme qui est spécialement anti-gitan, tu vois. En gros, là, t'as économie, désindexer les retraites sur l'inflation, écologie, construire des centrales nucléaires, sécurité, mettre de la vidéosurveillance, social, une nouvelle éducation handicapée, et les gitans. Voilà, nouvelle catégorie, enfin, je vous ai prévenu, c'est particulier, c'est la Hongrie.
Alors, vous vouliez sinon faire un volet People, paparazzade, ce matin sur Ligne Droite. Pardonnez-moi, ça ne vous ressemble pas tant que ça. Vous êtes plutôt branché sur des choses supérieures, élevées, nobles, intellectuelles dans ce monde, plutôt, normalement, non ?
Noble, c'est bien le mot, oui, parce que je voulais quand même évoquer le sujet de l'idylle entre ce bel âtre de Jordan Vardella et la princesse Maria Carolina des Bourbons des Deux Siciles, duchesse de Calabre et de Palerme, descendante directe de la moitié des dynasties d'Europe occidentale. Alors bon, on a un Jordan Vardella, le pasta de la Bologna, qui va épouser une fille qui pourrait épouser un Habsbourg ou un Targaryen à ce stade et remettre sur pied quelques monarchies sur le vieux continent. Le type est né en Seine-Saint-Denis, il a pas lu un livre depuis L'étranger de Camus au collège et il sort avec une sorte de demi-déesse. Pardon, mais qui ose dire que l'ascenseur social ne fonctionne plus en France, quoi ? Le type est littéralement le fils d'un petit patron beauf descendant d'immigrés plus ou moins prolo et qui est en train de se positionner pour s'installer sur le trône de France avec un mariage par alliance. Non mais... Morale de l'histoire, c'est toujours la monarchie qui permet l'ascension sociale et pas la République. Mais bon, donc on se retrouve avec des centaines d'articles dans le monde entier. Gna gna gna, ils sont amoureux. Non mais c'est bon là ! On a compris ! Oui, on a compris que Jordan Vardella sortait avec une princesse royale ! Ouais, on a tous l'info maintenant, faut arrêter s'il vous plaît.
Pardonnez-moi Alexandre, on a presque l'impression que vous êtes jaloux de Jordan Vardella là.
Ah mais... Le type a 30 ans, il est millionnaire, il a une chance sur deux d'être le futur dirigeant du meilleur pays de la Terre, il est en couple avec une princesse Bourbon et je devrais être jaloux, moi ? Non mais, ce que vous dites est absolument ridicule, Richard. Mais pourquoi elle l'a choisi lui, d'abord ? Pourquoi elle prend pas un journaliste de 23 ans qui travaille en CDD dans une radio d'extrême droite, qui est à moitié alcoolique, moitié dépressif, fumeur, qui vit dans 20 mètres carrés dans le 14e arrondissement, qui passe ses jeudis à inventer des blagues sur les tasty crusty et qui se fait insulter par la moitié de Twitter identitaire dès qu'il poste un tweet anti-Trump ? Franchement, je trouve ça incompréhensible. En plus, moi je sais pas parler italien, mais j'aurais pu lui chanter des trucs genre Una mattina, sono alzato, bella ciao, una mattina. Enfin, je sais pas, là c'est communiste, mais vous avez l'idée. Ou alors Io perrei da quando sai, la prima volta rencontrara. Enfin voilà, des trucs comme ça. Ou alors, vu qu'elle est l'extrême droite, j'aurais pu faire Giovinezza, Giovinezza.
On a compris l'idée, là, on va s'arrêter tout de suite. Mais de manière générale, ne dites pas ça, Alexandre, vous avez tout de même plein de qualités. Par exemple, vous êtes quelqu'un de super ponctuel.
Ouais, super. Et en plus, je m'assois tous les jours à côté de l'auteur des Belles-Mères sont-elles de droite aux éditions de la Nouvelle Librairie à seulement 14,90€ tous les matins. Vous vous étonnez pas après si j'arrive pas à prendre la lumière ? Non mais plus sérieusement, j'avoue que de toute façon, vraiment sérieusement, pour le coup, j'avoue que c'est pas tellement mon genre cette Maria Carolina. Oui, elle fait des pubs Dior et Chanel sur des yachts, c'est un petit peu la monarchie bling bling. Moi, je vise plus haut.
Nous conspirons. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi, je l'épouse et me voilà reine.
Voilà, moi j'ai une stratégie, mais au-delà de ça dans cette affaire, je suis un petit peu plus comme Jean-Philippe Tanguy.
C'est vraiment le moment de faire votre coming out.
Non mais prenez pas tout de travers, Richard, oh, écoutez plutôt.
Je vois pas pourquoi on pourrait pas juste dire, bah écoutez, ils sont amoureux, tant mieux, félicitations et bonne continuation. Enfin, je vois pas pourquoi tout est politique, tout est... Voilà, moi j'aimerais bien avoir rencontré un prince. Vous en connaissez pas un, non ?
Et voilà, moi je le trouve touchant, Jean-Philippe Tanguy. Lui aussi veut son prince charmant, donc voilà. J'en profite pour faire une annonce aux grandes familles princières qui, on le sait, écoutent Radio Courtoisie. Député RN de 40 ans, spécialiste des questions de souverainisme et assez identitaire, 1m70, fortune correcte, recherche prince charmant d'orientation sexuelle non assumable dans la haute aristocratie, potentiellement partant pour un concert de drag queen ou pour une PPL portant sur l'électrification nucléaire des clôtures barbelées pour Auvin dans la Somme. pas sérieux, s'abstenir. Ah, et aussi, faites des dons à Radio Courtoisie. Donc, non, mais voilà, mais tant qu'à faire, je vais plaider mon cas. Hein. Donc, si jamais vous êtes une jeune, vous nous écoutez là, et que vous êtes une jeune femme dans la vingtaine, que vous êtes magnifique, gentille, drôle, cultivée, intelligente, d'extrême droite décomplexée, douce, aimable, anti-trumpiste, que vous portez des robes à fleurs dès la fin avril, et que vous appréciez la littérature, donc prière de m'envoyer votre CV à alexandre@rc.fr, donc c'est mon mail là, voilà, et votre demande sera traitée dans les plus brefs délais. Je propose de mon côté un journaliste de 23 ans qui travaille en CDD dans une radio d'extrême droite, qui est moitié alcoolique, moitié dépressif, fumeur, qui vit dans 20 mètres carrés dans le 14e arrondissement, et qui passe la moitié de ses jeudis à inventer des blagues sur les tastiques roustis pour se faire insulter par la moitié du Twitter identitaire dès qu'il poste un tweet anti-Trump.
Non mais Alexandre, vous avez sérieusement cru que vous allez pouvoir utiliser la radio, qui d'ailleurs n'est pas d'extrême droite, comme une application de rencontre ?
Non mais c'est une chronique blague, Richard. C'était pas sérieux, bien sûr. Enfin, qu'est-ce qu'on rigole quand même. Alexandre@rc.fr, alexandre@rc.fr pour me contacter. Non mais bon, sinon pour conclure, je voulais me faire tout à fait détester par les derniers auditeurs qui apprécieraient Donald Trump. En fait, pour tout vous dire, j'ai longuement réfléchi et je suis désormais à peu près convaincu qu'il complote. Oui, il a un plan secret depuis plusieurs mois qu'il essaye minutieusement de mettre en application. Pour tout vous dire, j'ai écouté les génies de Twitter qui s'obstinent à défendre Trump du matin au soir, qui disent que si le détroit d'Hormuz est fermé, c'est génial parce que comme ça on va devoir se forcer à acheter du pétrole plus cher ailleurs. Selon eux, c'est très simple, Trump est un génie absolu qui calcule tout et qui est capable de lire l'avenir dans les astres, de connaître le passé, d'aller dans le présent, une sorte de Jésus. Ah tiens d'ailleurs, Trump a publié une photo de lui en Jésus traumaturge, ça alors ? Ah tiens, c'est 2 jours avant, après avoir allumé le pape sur Twitter. Autre coïncidence, c'est 3 jours avant que J.D. Vance ne dise au pape qu'il fallait être prudent sur les questions de théologie. Non mais ça alors ! Et puis hier, Trump a dit qu'il est autant favorable à l'évangile que n'importe qui peut l'être. Non mais, tout ça c'est pas une bande de larbins d'un mégalo, ça n'a rien à voir, non non, c'est une stratégie géniale de Donald Trump.
Mais hein, enfin, dans quel but ?
Vous voyez pas, Richard ? C'est clair pourtant, la guerre ratée en Iran, les insultes contre le Saint-Siège, le Groenland, l'affaire Epstein... Ah pardon, je croyais qu'il fallait dire Epstein. Les Américains gauchistes tués par l'ICE à Minneapolis, le départ de plusieurs anciens MAGA... Enfin, tout cela est une vaste stratégie visant à faire perdre les Républicains aux élections des midterms en novembre prochain, voyons.
Mais comment ça ?
Mais voilà ma grande théorie. Donald Trump n'a plus envie de gouverner, en fait il s'est rendu compte qu'il en avait marre de diriger une bande de laquais qui lui cirent les pompes qu'il a achetées à la mauvaise taille. Donc là il s'est dit stop, mais comme il est Johnny, il n'arrive pas à raccrocher. Alors du coup il se dit que c'est plus simple de perdre les midterms, de prendre un impeachment, et dans un an, et d'aller prendre sa retraite en jouant du golf à Mar-a-Lago. Et comme il dirait, je pense que cette stratégie est une stratégie incroyable, avec de grands résultats, des gens formidablement nuls qui m'ont aidé jusqu'au bout à faire rater à 100%. Je capitule face à l'Iran, la plus grande capitulation jamais réalisée, et je vais bien rater les midterms. Ce sont les midterms les plus ratés of all times.
Merci beaucoup Alexandre de Gagin.
Ligne droite, l'analyse.
Et alors, normalement, nous sommes censés recevoir Rémi Tell, qui a quelques problèmes de connexion. Donc, si jamais Alexandre de Galzin, après avoir essayé de joindre Rémi, veut revenir avec nous pour parler de Trump, par exemple, pas forcément pour en dire autant de mal que d'habitude, mais pour essayer d'examiner les raisons de son... de sa diplomatie un peu bizarre, un peu conflictuelle, j'en serais ravi. Donc ce matin, vous étiez sur Ligne Droite, merci de nous avoir accompagnés. Tout à l'heure, vous pourrez réécouter, bien sûr, le premier entretien qui était tout à fait intéressant avec Véronique Lefloc sur l'état de l'agriculture. Et pendant qu'on essaye de joindre Rémi Tell, je reviens avec Alexandre de Galzin. Alexandre, c'est vrai, il vous arrive sur X, ex-Twitter, de dire un peu de mal de Donald Trump pour des raisons qui échappent à tout le monde. Parce que cet homme donc insulte le pape, cet homme a réussi à faire en sorte que l'Iran ferme le détroit d'Hormuz, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 40 ans. Cet homme a réussi à faire augmenter les cours du pétrole dans des proportions faramineuses. D'ailleurs, certains l'accusent de faire exprès, et d'ailleurs de jouer sur la manière dont les marchés boursiers sont très attentifs à ce qu'il dit pour justement faire en sorte, en gros, de manipuler les cours.
Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y en a certains qui en profitent. Ça fait plusieurs mois, depuis à peu près 6 mois avec le Groenland, qu'on observe qu'il y a ce qu'on appelle, alors pardonnez-moi l'anglicisme, des business insiders au sein de la Maison Blanche, donc en fait des personnes qui ont un instinct boursier
particulièrement développé, notamment sur...
On appellerait ça des délits d'initiés.
Voilà, exactement.
Hein, on n'est pas loin. Quoi.
Oui, voilà. Ça s'en rapproche beaucoup, en tout cas. Et puis, même d'ailleurs, de manière générale, ce qui est assez évident aujourd'hui, c'est que je vais prendre notamment la guerre en Iran. Maintenant, il est établi que les Américains n'ont pas été consultés avant le début de la guerre en Iran et que Israël avait, dans tous les cas, décidé de frapper l'Iran. Donc, l'idée que ce serait une grande stratégie de Donald Trump, tout ça pour faire baisser les taux, enfin pour jouer sur les cours du pétrole et faire baisser les prix ou enfin les faire augmenter les prix, en réalité ça tient pas vraiment. Et d'ailleurs on voit que dans un papier du Washington Post dont Régis Le Sommier parlait lundi dernier je crois ici à notre antenne, ce qu'on pouvait comprendre de ce que disait Régis Le Sommier, c'est que en réalité tout le monde essaye de se défausser de la responsabilité de la guerre en Iran, y compris des personnalités comme Steve Witkoff ou Jared Kushner
et Marco Rubio.
Et Marco Rubio, exactement. Et que tout le monde essaye de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, à commencer donc par Donald Trump. Et Donald Trump lui-même qui irait bien plus loin que ce qui a été prévu dans toute cette affaire.
Eh bien, merci beaucoup Alexandre d'avoir quand même donné des fondements solides à vos tweets sur X. Et voilà. Et maintenant, nous pouvons parler avec Rémi Tell, justement, de politique et de spirituel. Eh bien, bonjour Rémi Tell.
Bonjour Richard, bonjour à tous.
Rémi Tell, on s'était dit hier qu'on allait parler justement de politique et de spirituel, et avons-nous plus besoin de politique que de spirituel dans le combat qui est à mener? Et je trouve que la figure de Donald Trump à cet égard est absolument fascinante, parce que il réussit à réintroduire dans l'espace politique occidental, qui s'était acharné depuis les guerres de religion à très bien séparer le spirituel et le temporel, bon, qui était déjà pas mal séparé avant, mais là, à les séparer encore plus soigneusement, en allant même jusqu'à bannir, d'une certaine manière, le spirituel de tout ce qui est gouvernement de la cité. Lui, dans notre sphère, puisque dans le reste du monde, spirituel et temporel font bon ménage, est en train de réintroduire le spirituel, en tout cas un certain spirituel protestant anglo-saxon, d'une manière tout à fait fascinante.
Et oui, peut-être parce que la réalité est indissociable aujourd'hui de la spiritualité, de la réalité politique du moment que nous vivons, puisqu'il y a 7 ans, on en a parlé cette semaine, y compris sur votre antenne, en pleine Semaine Sainte, justement, les flammes de Notre-Dame rappelaient le monde aux réalités invisibles, suscitant une émotion surnaturelle partout, chez les croyants et les incroyants. Est-elle un signal envoyé d'en haut? Cet événement marque rétrospectivement, Richard, le point de départ de tribulations inédites pour l'espèce humaine, inédites par leur nature plus que par leur degré. Confinement, passe, injection forcée, cérémonies sportives aux allures de fin de films d'épouvante, un chemin liberticide et dystopique, consolidé par le conflit en Ukraine et par les pénuries en tout genre. Parallèlement, en communion avec l'esprit du monde, notre Parlement légalisait les chimères homme-animal, proclamait l'avortement comme droit suprême et organisait l'euthanasie des plus fragiles. Côté business, la modernité, elle, n'avait plus Dieu que pour l'intelligence artificielle susceptible d'avoir atteint la conscience il y a moins d'un mois, à en croire certains spécialistes, et en permanence, surtout, tous azimuts, le mensonge, la déréalisation, dont témoignent mieux que tout autre l'hystérie transidentitaire, ou plus généralement leurs effets désastreux sur une génération souffrante, livrée à OnlyFans et aux stupéfiants, une génération sous les yeux de qui la mécanique agissante du monde s'est progressivement dévoilée. Alors bien sûr, vous l'avez évoqué, il y a eu Trump, sauveur inespéré, prince revendiqué de la paix, des accords d'Abraham signés à l'automne 2020, en pleine pandémie mondiale. Trump, celui devant qui le chaos tremblait, contre qui les puissances occultes semblaient conspirer entre fraudes électorales étayées et tentatives d'assassinat ratées. Mais 3 ans plus tard, un 7 octobre, crac, 1200 morts à Réim, 250 otages et le sang qui ne cessera plus de couler au Moyen-Orient et en Terre Sainte. Face aux condamnations, l'axe Washington-Tel Aviv résiste. Avant de battre de l'aile, il faudra bien toute l'horreur de l'affaire Epstein pour convaincre le dur à cuire de plier devant son homologue, israélien, et pour nous convaincre que le mal à l'œuvre n'est pas pleinement humain. La suite, vous la connaissez, Richard. Menace d'anéantissement, blasphème, village libanais rayé de la carte par Tsahal, sans que personne n'imagine sérieusement une porte de sortie durable à cette situation. 7 ans, 7 années interminables, mais un temps record pour vider les mots de leur sens, détruire les fondations plurimillénaires de nos communautés et pour disposer les cœurs, car en 7 ans, le nombre de baptêmes a été multiplié par 3. Et si c'était là, Richard, le bon combat à mener?
Alors, c'est certain, il y a cette augmentation des baptêmes en France. Il y a en même temps une espèce de revendication d'un christianisme identitaire. On a peut-être ici des noces un peu surprenantes entre les racines chrétiennes de la France et des nationalistes qui se disent que pour être pleinement nationalistes, ils doivent être chrétiens, comme si en fait le christianisme était un attribut culturel plutôt qu'un engagement personnel.
Peut-être que le christianisme s'apparente à une ligne de crête, vous savez, qui est aussi fine en fait que l'arête d'un diamant, et on a très vite fait de tomber d'un côté ou de l'autre. Et effectivement, on a remarqué qu'il y avait une porte d'entrée qui s'était ouverte pour la foi, et qui était celle de l'héritage, en réalité, d'un héritage culturel, avec ce qui comporte aussi une dimension religieuse. Mais comment cette porte d'entrée, eh bien, certains l'avaient traversée finalement, et d'autres y étaient restés, bloquant même d'ailleurs l'accès à ceux qui voudraient eux-mêmes passer par cette porte. Et c'est la question de la droite identitaire aujourd'hui et de l'instrumentalisation d'une certaine façon qu'elle fait de la religion et de la religion chrétienne. Alors, on n'est pas, nous autres, adeptes de la langue de bois, donc je pense qu'il faut dire les choses. C'est ce qu'on trouve, par exemple, aujourd'hui au sein du groupe Bolloré, où vous avez ce porte-étendard de la foi, mais qui va ramener des gens, peut-être pour mieux les en détourner, en réalité, avec une vérité qui est parfois très loin de la charité aussi chrétienne. Or, les valeurs, on le sait, dans la chrétienté, elles sont indissociables. La vérité et la charité, par exemple, doivent aller ensemble. Et donc, c'est aussi à la fois une chance pour la foi, parce que ça permet à des gens qui en étaient éloignés de s'en rapprocher, à condition de ne pas en rester là. Et le pape, il y a quelques mois, disait que la bénédiction du nationalisme était une nouvelle forme de blasphème. C'est aussi ce à quoi on assiste, et c'est ce à quoi on assiste plus encore dans la sphère protestante, avec cette justification, en réalité, de la guerre et des massacres au nom de Dieu. Et là-dessus, la réaction du Vatican a été très claire. Et on a même, du point de vue de la foi, un certain nombre de clins d'œil du ciel, en réalité, quand Pete Hegseth, hier, pense citer un verset de la Bible pour commenter les destructions en cours et qu'en réalité il cite Pulp Fiction, je crois que c'est un petit indice qui doit nous parler et qui doit vraiment nous inviter à être très prudents sur cette ligne de crête qui est celle de la foi chrétienne.
Alors, cette ligne de crête de la foi chrétienne, donc c'est à la fois une ligne de crête, une pomme de discorde, une épée de Damoclès. On en revient incessamment à l'idée d'une laïcité à la française. Et donc, c'est tout l'objet d'ailleurs du livre de Benoît Dumoulin qui vient de paraître aux éditions Bolen, qui est une laïcité qui tient absolument à évacuer le religieux de l'espace public, alors que c'est très compliqué de demander, d'une part, à un homme, quelle que soit son époque, quelle que soit sa religion, quelle que soit la géographie dans laquelle il habite, de ne pas être religieux. Ça fait partie quasiment de la condition humaine. Nous sommes anthropologiquement des gens avec un appétit du religieux. Il n'y a aucune société qui réussit à en faire l'économie, ou quand elles en font l'économie, comme les communistes, voilà, c'est-à-dire qu'ils inventent une religion de substitution qui est d'ailleurs encore plus aberrante dans ses dogmes et ses liturgies que les religions qu'ils critiquent. Donc, peut-on imaginer que le christianisme réussisse à nouveau à se frayer un chemin dans la société française et donc qu'il y ait non pas une irruption du spirituel dans le politique, mais au contraire que le politique commence à prendre en compte les besoins spirituels en France, les besoins spirituels de la population, non pas comme étant une affaire strictement privée, qui en fait passe son temps à déborder du privé. Je veux dire, n'importe quel attentat islamiste est là pour nous montrer que expliquer que c'est du privé, c'est faux. Mais donc, est-ce que le politique français est prêt à considérer que le spirituel fait partie des besoins de l'humanité et donc fait partie des choses qui doivent s'exprimer dans le champ du politique?
Peut-être en premier lieu de rappeler que la France occupe une place particulière dans ce combat spirituel, puisqu'elle a été la première, finalement, avec la Révolution française, à tenter de sortir Dieu de l'équation humaine. Et c'est cette Révolution française qui donne un peu le « là » à la Révolution russe, puis à toutes ces religions séculières destructrices et mortifères qu'ont été le communisme, le nazisme, ou encore aujourd'hui une certaine forme de wokisme aussi, d'une certaine manière, qui elles-mêmes, vous l'avez dit, ont leur propre code religieux, ont leur propre rapport à l'évidence et à la rationalité, non pas que la foi soit irrationnelle, mais elle est en tout cas irrationnelle. Et dans l'extrême polarisation du débat public, d'un débat public sécularisé, et dans lequel on ne peut plus discuter, en fait, on observe bien cette dimension irrationnelle, c'est-à-dire là, pour le coup, irrationnelle, par-delà la raison, puisqu'il est impossible, même avec des arguments logiques ou des preuves issues de l'observation, de faire précisément entendre raison aux uns et aux autres, puisque cette logique qui était une logique irrationnelle, en fait, s'est déplacée sur le politique et elle est devenue irrationnelle. Et donc, puisque la France a été l'autrice, pour parler comme aujourd'hui, de cette modernité sans Dieu, il est tout à fait possible qu'elle soit également le moteur du retour à Dieu de la modernité. Et c'est ce que semble indiquer le nombre absolument considérable de conversions, notamment au sein de la jeune génération. Pas que, et peut-être aussi, on ne maîtrise pas tout, et je pense que d'expliquer le retour à la foi par des aspects sociologiques ou des aspects politiques, ce serait en tant que tel d'ailleurs une forme de laïcisme de ma part, je parle de moi, donc je ne prétends pas tout expliquer, mais il est certain en tout cas que peut-être mieux qu'ailleurs dans le monde, nous avons constaté les effets désastreux de cette sécularisation et surtout cette métamorphose en fait monstrueuse avec les religions séculières. Et peut-être ici, mieux qu'ailleurs, on sait ce qu'est de prétendre vivre sans Dieu et les fruits très amers en réalité que tout cela produit.
Effectivement, vivre sans Dieu, c'est par exemple l'idéal de la Révolution française une fois que le culte de l'être suprême est supprimé, c'est l'idéal de la Troisième République et au lieu d'apporter la paix, la joie et le bonheur, au contraire, on sent qu'il y a dans la Troisième République une haine de l'autre, un racisme absolument débridé qui commence à s'exprimer, donc sans parler effectivement des autres religions séculières comme le communisme ou le nazisme qui n'ont absolument pas pour but d'apporter la joie sur Terre, mais au contraire de n'apporter la joie qu'à un petit nombre de personnes, à un petit nombre d'élus très restreints. Rémy Telde, dans les quelques minutes qui nous restent, je voudrais quand même vous reposer la question effectivement de ces conversions. Il y a toutes ces conversions dont se félicite l'Église catholique avec ces jeunes qui reviennent à la foi ou qui viennent à la foi, mais il y a aussi toutes ces conversions à l'islam, c'est-à-dire ce ne sont pas c'est un retour religieux mais qui ne se fait pas par un seul canal vers une seule religion. C'est aussi des conversions, et on en parlait avec François Bousquet tout à l'heure, vers la religion qui est en train de devenir la religion dominante en France, en tout cas dans l'expression de la foi.
Oui, alors juste en un mot sur la Révolution française, c'est un déicide, c'est un mouvement spirituel et qu'on pourrait même dire d'une certaine façon diabolique, dont l'ambition était de tuer Dieu par la figure de son représentant sur Terre en France, à savoir le roi. Et il suffit de s'intéresser aux profanations d'églises pendant la Révolution ou même de la nécropole des rois de France à Saint-Denis pour comprendre que le cœur, vraiment le moteur de la Révolution française, c'est une révolte spirituelle. Donc en fait, on se situe bien déjà sur ce terrain-là. Ensuite, sur la question de la spiritualité au sens large, hier, en consultant les réseaux sociaux, quelqu'un qui est plutôt dans notre mouvance, on pourrait le dire, expliquait que Notre-Dame avait été abaissée spirituellement par le feu qui avait consumé la charpente et qu'il fallait y pratiquer la magie blanche pour restaurer Notre-Dame dans son éclat spirituel d'antan. Et donc, effectivement, dans ce réenchantement du monde, il y a une forme de tâtonnement, c'est-à-dire qu'on commence un peu en balbutiant, si vous voulez, comme un enfant qui découvre la vie, et avec des essais et des erreurs. Et c'est vrai pour l'islam, c'est vrai pour l'ésotérisme. Aujourd'hui, des études montrent qu'il y a à peu près 60% des Français, ce qui est quand même considérable, qui verseraient d'une manière ou d'une autre, ça peut être par le tirage de cartes, ça peut être par la lithothérapie, dans une forme d'ésotérisme. Et effectivement, il y a beaucoup d'impasses, d'une certaine façon, sur ce chemin très étroit, qui est le chemin de la vérité. En même temps, il ne faut jamais désespérer que le ciel lui-même, finalement, utilise ces impasses pour mieux ramener les uns et les autres dans le droit chemin. Donc, évidemment, ce n'est pas un appel de ma part à cultiver l'erreur. Et d'ailleurs, l'Église n'a jamais dit qu'on devait, finalement, embrasser une attitude un peu relativiste qui considérerait qu'on a notre vérité et les autres ont leur propre vérité. Non, nous croyons, chrétiens, nous pensons qu'il y a une vérité. Néanmoins, c'est un appel aussi pour ceux qui se convertissent, enfin, de la part de ceux qui se convertissent à l'islam ou qui versent dans ces formes d'ésotérisme, un appel à quelque chose de supérieur et à nous aussi comme croyants, ou en tout cas à ceux qui croient, de se faire témoin, d'une certaine façon, de la vérité, et plutôt que d'exclure, en réalité, de prétendre, sans que ce soit associé à une dimension un peu négative du passé, mais à convertir, en fait. À convertir en étant nous-mêmes des témoins d'espérance et des témoins de cette vérité qui restaure pleinement dans l'humanité qui a été si fragilisée la part des années qui viennent de s'écouler.
Eh bien, merci beaucoup Rémy Tell et à dans 15 jours sur Radio Courtoisie.
Ligne droite.
Et bonjour Maximilien Frisch.
Et bonjour Richard.
Voilà, nous parlions de spirituel et de politique avec Rémy Tell. Nous allons parler littérature avec vous et voilà, donc c'est presque la même chose.
Oui, exactement, j'en suis persuadé. Et alors la chronique du jour n'est consacrée qu'à un seul auteur, mais qui a quand même écrit une trentaine de livres depuis 2017. Donc ce n'est pas rien, il s'agit
Oui. 30 livres en moins de 10 ans, oui. Ouais,
c'est une performance quand même, il devait en avoir dans les tiroirs quand même. Bon, il s'agit de Valéry Mollet, en fait. Hein. Il publie des essais littéraires, de la poésie, des nouvelles et des romans. Et on va bien évidemment pas passer en revue tous les livres, hein. ça serait peine perdue, mais opérer quand même un balayage général et s'attarder sur quelques-uns. Alors, ce qui caractérise Valéry Mollet, c'est quoi? C'est d'abord une langue, hein, et un esprit totalement jouissif et jubilatoire, allié à un malin plaisir à cultiver le cynisme par générosité, quand même. Et il en ressort quoi? Une sorte de sagesse, un art de vivre et de penser en pied de nez. Voilà, disons-le. Alors, on va commencer par les essais. Alors, Mollet a pris l'habitude depuis quelques années d'écrire sur le dos d'un auteur et de nous conter le récit d'une lecture. C'est ainsi qu'il l'incarne et redonne vie au texte en venant le perturber avec sa propre langue. Hein. Il ressort de ses livres que Mollet dialogue avec les auteurs qu'il choisit, il dialogue en écrivain avec eux et place le lecteur au cœur de ce dialogue entre écrivains. Alors c'est ainsi qu'il a dialogué avec Drieu-La Rochelle au sujet de Gilles, avec Aragon sur la défense de l'infini, et dernièrement avec Nietzsche dans un ouvrage intitulé « Crépuscule du chaos ». Dans ce dernier ouvrage d'ailleurs, Mollet a convoquer Patrice Jean pour qu'il vienne avec lui tenir la jambe à l'allemand anti-Bosch, selon l'expression même de Mollet. Alors, mais l'essentiel de cet essai sur Nietzsche, intitulé « Crépuscule du chaos », essai sur le cœur astrologue de Nietzsche, réside dans la tentative de nous faire goûter la phrase du philosophe, sa langue. Nietzsche décadenasse le distinguo entre poésie et philosophie, nous dit Mollet. La philosophie est avant tout une poétique pour notre auteur, c'est-à-dire un art d'écrire et un art qui se donne à lire. Il faut donc savoir lire Nietzsche comme un poète avant de le lire comme un philosophe. Il faut entendre la langue, recevoir cette pensée avec style, comme un pamphlet, nous dit-il. Ceux qui posent la question « que veut dire Mollet ?» se trompent de question. Hein, cela n'a aucune importance. En revanche, que nous chante-t-il là? Voilà la bonne question. Mollet a de la conversation, mais s'en échappe en permanence. Il ne cherche pas à nous rallier, à nous convaincre, il ne parle même pas avec autorité, il nous balade. Comprends qui peut. Voilà le Bobby Lapointe de la pensée qui se moque du concours Lépine de l'intelligence. C'est dire s'il est impossible de passer un mauvais moment en lisant Mollet. Il nous conduit à renoncer à vouloir saisir, à accepter sa propre démission et ses trahisons. Il me rappelle sans cesse d'ailleurs qu'il n'y a pas plus con que celui qui n'a jamais changé d'avis. Mollet lit Nietzsche depuis ses 20 ans. Il confie Nietzsche a littéralement assassiné qui j'étais, mais aussitôt il ajoute Nietzsche n'a pas eu de mal à me trouver comme victime puisque je consentais à en être une. Alors voilà, pour cet essai, c'est Mollet, Crépuscule du chaos, essai sur le cœur astrologue de Nietzsche, voilà, et c'était aux éditions Unicité. Voilà, ça vient de sortir, je vous le recommande. Maintenant, basculons en poésie.
Ben oui.
Poésie et philosophie sont pour notre auteur la marque de l'homme sorti de la grotte. Neuf ouvrages, dont un où il dialogue justement en poésie avec un philosophe, Julien Farge, dans un ouvrage intitulé Fermeture à journée des zones d'ombre. Il faut d'ailleurs goûter les titres des ouvrages de poésie de Mollet. Animaux vivants à l'intérieur, Le crématorium inutile, Aucune encre au fond de l'abîme, La séquestration du carbone, Et moi je rirai de votre épouvante, Ironique les abîmes ultimes, L'extrême limite de la nuit, Bruits intrus pour cœurs épais. Alors ces titres sont des hameçons pour ceux qui ont l'intuition que ce qui arrive au mot prime sur toute causalité, tout militantisme sur la fiction de la cohérence. À quoi reconnaît-on un poète? Il se moque de lui-même et des lecteurs, c'est une plaisanterie à plaies ouvertes. Mollet transforme l'ordinaire en mystère, l'absurde en poésie. En goûtant la prose de Mollet, on apprend aussi à vivre sans illusion et sans dégoût. Est-ce là une façon d'échapper au mélodrame moderne et pathétique dans un monde ayant rendu la tragédie inaccessible? Bah, peut-être. Est-ce là l'espérance du pauvre? Peut-être. Celle qui est donnée à celui qui renonce enfin à produire des raisonnements. Il nous faut regarder, souffler, inspirer, expirer, et puis quand même la mer, la plage, le bord comme lieu de prédilection du poète. N'est-ce pas le meilleur endroit pour se mesurer à l'horizon et faire le constat du vide sans perspective de marée? Personne, les vagues ne se replient même plus, elles ont la persistance triste de ne plus y croire elles-mêmes. Alors, en poésie, je vous recommande La séquestration du carbone. C'est aux éditions Nouvelle Marge que vous commencez à connaître maintenant.
Mais oui, serait-ce celle que vous dirigez, par exemple.
Peut-être. Alors, côté nouvelles, les nouvelles méritent la performance chez Mollet. Les lectures à voix haute et théâtralisées. Il avait fait un duptyque, le nœud du pendu, puis dénouement sur le sentiment amoureux. Et puis quant à moi, j'ai lu « Injure précédant un amour légendaire ». 1h30 d'injure précédant la rencontre amoureuse, comme dans « Dénouement » justement. Pour ceux qui rêvent d'entendre ma voix proférer des insultes pendant 1h30, il faut chercher sur YouTube. Et juste pour une mise en bouche, allez, sombre merde, pourriture, éternuée, je ne vous déteste même pas tant, je vous déteste. Ah ben, ça fait du bien, hein.
Mais bravo Valérie Mollet.
Ça fait du bien. L'injure serait-elle un développement personnel? Est-ce que finalement l'injure n'est pas un humanisme? Qui n'a pas rêvé un jour d'insulter la terre entière? Qui n'a jamais désiré l'apocalypse comme ultime possibilité de jouir? Et il faut dire que, à la vue de ces branles coquins émasculés brandissant leur volonté lacrymale comme substitut d'érection, de ces filles qui rient comme des guenons pathétiques, de ces chipoteurs de tracts qui défendent la chiasse humanitaire, de ces touristes à claquettes, difficile de ne pas insulter de concert avec Valérie. Alors jouissons de sa gerbe, car en vrai, l'ennui vaut condamnation à mort, et saluons cette performance, car chaque insulte anoblit. Allez, c'était, donc ça c'était aux éditions Unicité aussi. Et pour finir, un roman au fond de la rade. Hein, on avait parlé d'un précédent avant qui s'appelait « À l'aube d'un paradis occasionnel », espèce de road trip alcoolisé dans la Russie de la perestroïka. Et au fond de la rade, en fait, bah, ça raconte quoi, hein? Elle, déjà, ça pose une question. Y a-t-il une vie avant la mort? Bonne question. Le héros nommé Boval décide de tout plaquer, de s'extraire, de sortir du jeu, hein, puisque la vie l'a mis automatiquement hors jeu. Ses enfants n'ont plus besoin de lui, sa femme ne l'aime plus. Et le travail a sans doute cessé de représenter la possibilité d'un reflet flatteur. Il décide donc de bouleverser sa vie, une autre façon de s'ouvrir les veines. Il achète un triton, petit sous-marin à deux places, part à Douarnenez en Bretagne et fait le projet de vivre sous l'eau. Ce n'est sûrement pas par curiosité ou esprit d'aventure, hein, mais par incapacité à s'enterrer en fait. Et c'est pas simple de sortir du jeu. Il y a les poissons trop présents qui matent l'homme seul dans son bocal. Il y a les tempêtes qui donnent plus de la gueule de bois qu'une bonne cuite. Et il y a même les touristes. Le divertissement le rattrape car Lulu Berlu est devenu une attraction. Boval, quand il n'est pas sous l'eau, est sous, avec d'autres déchets revendiqués de la société, des semis ou trois quarts cloches. Ça parle fort, et en fait pour unir des solitudes. Et on rit avec eux grâce à Valérie Mollet. Voilà, il faut vraiment le goûter. À 50 ans, on est forcément cadastré et clos. D'aucuns diraient immonde. On a beau se raconter des histoires sur ses réussites, c'est l'âge qui veut cela. On peut se donner le change avec la beauté de ses enfants, sa vie professionnelle, sa maison bien aménagée et ses tableaux au mur. Il n'en demeure pas moins que le sentiment de l'échec se répand avec l'ennui long comme les bras d'un cul-de-jatte. Au fond de la rade, roman de Valérie Mollet, là aussi, chez Nouvelle Marge.
Merci mille fois, Maximilien, d'être venu en parler et surtout de porter cet auteur à travers vos éditions. À très bientôt sur Radio Courtoisie.
À très bientôt, Richard.
Et tout de suite,
aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Et tout de suite, la chronique de Jérémy Combe.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Jérémy Combe.
Bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
Aujourd'hui, avec vous, nous allons aborder un sujet un peu tabou et un peu sensible, les démonstrations d'affection en public. Je sens que vous allez encore être énervé.
Vous commencez à me connaître. On a certes le droit de montrer à l'autre qu'on l'apprécie, mais jusqu'où? Permettez-moi de vous expliquer comment faire en sorte pour que votre petite démonstration d'affection en public ne prête pas à controverse. Ces démonstrations, c'est un peu comme, vous le savez, le stylo 5 couleurs, là, clac, clac. C'est génial quand c'est vous qui les faites, mais c'est hyper énervant pour celles et ceux qui se trouvent autour de vous.
Alors, vous en pensez quoi concrètement, Jérémy ?
Je trouve que les démonstrations d'affection en public sont comme une espèce de transgression. Quel qu'en soit le niveau, c'est faire quelque chose de privé en public. Alors, c'est très excitant pour les parties concernées, mais pour les autres, je trouve que ça apporte un malaise, avouez-le. Ça remonte au code de la régence, et je n'invoque pas ici les religions qui sont très divisées sur le sujet. Mais quand même, on ne se bécote pas en public, point barre. C'est très lié aux normes culturelles et sociales, alors il faut aussi respecter les autres.
Non, jamais de preuve d'affection pour vous, Jérémy.
Bon, il y a des niveaux quand même, je vais être indulgent. L'utilisation généreuse de la langue, par exemple, devant qui l'on est. Si on est devant ses parents, ses grands-parents ou au travail, on garde nos démonstrations d'affection en public pour le privé. On peut néanmoins tenir la main, se faire des baisers normaux et non français, pas trop de French kiss, et des câlins qui sont appropriés. Parce que franchement, parfois on voit un peu tout et n'importe quoi. Cela ne doit pas perturber la conversation et ne doit pas attirer l'attention de la même manière que de se toucher un peu beaucoup ou de rester assis sur les genoux de la personne. Le fait de s'exhiber, c'est aussi une manière de dire aux autres « nous sommes ensemble » et de montrer le « degré » entre guillemets d'excitation. C'est pas très bien. Et sans être coincé, il faut penser aux plus petits. Et c'est très impoli. C'est aussi donner la priorité à vos envies plutôt qu'à la conversation ou aux échanges avec les autres. On peut même parler de grossièreté.
On sent que vos séjours dans les salons parisiens ont parfois été pénibles, Jérémy. Lors d'un tête-à-tête, rien non plus, quand même.
Ah non, si vous êtes seul avec un rendez-vous galant, alors là c'est le moment ou l'endroit très approprié pour vos démonstrations, mais ils ne sont plus en public, mais pas au restaurant par exemple. Les autres invités ou les autres personnes ne sont peut-être pas dans le même état d'esprit. On s'embrasse dans l'entrée de chez soi, mais pas dans le couloir d'un hôtel ou dans un lieu public comme au théâtre, sauf à être avec, ou alors être, être comme les ados, et aujourd'hui n'ont plus de limites. Mais que les choses soient claires, on peut se réjouir des démonstrations quand elles sont appropriées et agréables à faire et à regarder, comme un couple qui s'embrasse en attendant son taxi. Nous aimons voir que les gens sont amoureux, mais moins impatients de les voir jouer en temps réel, quoi, en gros. Vous n'êtes pas d'accord ?
Absolument. Merci beaucoup, Jérémy.
Je vous en prie.
Ligne droite, la revue de presse.
Et nous accueillons maintenant notre partenaire Valeurs Actuelles, Tuc Duhalde, Denis. Tuc Duhalde, j'ai reçu mon Valeurs Actuelles cette semaine. Je l'ai reçu à l'heure. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et, alors, vous allez nous parler des milliards perdus de Bruxelles.
Effectivement, bonjour Richard, bonjour à tous vos auditeurs. Cette semaine, une grande enquête de Yann Hamel, qui est un journaliste de notre cellule Investigation. Ça fait plusieurs semaines, quasiment trois mois, qu'il a travaillé sur ce dossier, sur les milliards perdus de Bruxelles. Car nous n'avons pas voulu faire le énième récit des dysfonctionnements bureaucratiques de Bruxelles ou des orientations politiques discutables de l'institution. En revanche, non pas que nous le partageons pas, mais c'est quelque chose qu'on a déjà écrit maintes fois. En revanche, ce journaliste m'a proposé effectivement un dossier sur voilà les détournements financiers entre guillemets qu'il peut y avoir dans l'Union européenne. Il y a eu Qatargate en 2022 avec une vice-présidente dont on a retrouvé de l'argent en liquide donné par le Qatar donc pour influer des décisions qui pouvaient se prendre au niveau européen. Ça avait beaucoup fait parler évidemment à l'époque, mais en réalité ça continue. Alors ça continue pas exactement sous la même forme, mais il y a des détournements de fonds européens via des cascades d'ONG un peu douteuses. Il y a des règles au Parlement européen qui permettent à des députés déjà bien payés par l'institution de cachetonner entre guillemets avec des entreprises privées et parfois au mépris de conflits d'intérêts. Il y a aussi des détournements et des fraudes à la TVA que Yann Hamel explique dans son dossier puisque c'est assez facile de faire de la fraude à la TVA en Europe. Et donc, c'est vraiment ces milliards perdus de Bruxelles, comme on l'a titré, dont on a voulu parler, puisque, évidemment, ces milliards, ce sont les vôtres, cher Richard. Je ne sais pas si vos auditeurs connaissent votre surface financière, mais... mais voilà, ce sont les vôtres, ce sont les leurs, ce sont les nôtres. C'est-à-dire, c'est de l'argent perdu et extrêmement mal dépensé et qui fait partie, parmi bien d'autres défauts, des manquements, entre guillemets, de l'Union européenne.
Alors, dans cette enquête sur la manière dont l'Union européenne claque de l'argent d'une manière inconséquente, il y a aussi la manière dont l'Europe, avec le Qatargate, est aussi achetée d'une certaine manière par les pays étrangers.
Effectivement, voilà, on a montré, enfin l'enquête montre à quel point la porosité et des ingérences étrangères et notamment via leurs leviers financiers est dangereuse et établie surtout. Et puis dans l'autre sens, on montre aussi que, par exemple, on a financé des guerres en Afrique, pensant soutenir des rebelles ou des armées régulières qui étaient là pour restaurer la démocratie. Et en fait, ça finissait dans les poches de quelques généraux corrompus. Il y a une manière d'utiliser l'argent ou de faire rentrer l'argent en Europe qui est tout à fait surprenante, on va dire, pour parler poliment, et qui appelle à une vigilance accrue et qui plaide une fois de plus pour un peu plus de souveraineté nationale, finalement.
Voilà, et sinon, puisque vous me posez la question, comme dirait le général de Gaulle, j'ai beaucoup aimé le petit éloge de la gentillesse, donc le grand entretien réalisé par Anne-Laure de Backer avec Alexandra Pupin-Bortoli. Voilà, dans un monde où on n'essaye pas forcément d'être gentil, et même pas Radio Courtoisie, on se contente d'être courtois. C'est un éloge d'une vertu un peu oubliée, mais tout à fait efficace.
Et je me permets, à l'inverse, de relever un autre papier qui est pas un éloge, mais qui est en revanche effectivement un zoom sur de la méchanceté, entre guillemets, puisque nous avons publié aussi une grande enquête sur la manière dont les entrepreneurs de la crypto-monnaie sont traqués par des gangsters. Je ne sais pas si vous avez encore
vu. Si, avec des photos effrayantes.
Elle est absolument saisissante et effrayante. C'est un mélange de entre la voyoucratie de banlieue, entre les dérives du monde contemporain et une forme d'impunité judiciaire qui est vraiment terrifiante. Ouais.
Voilà, et bien, merci beaucoup, Tuc Dual-Denis. Et bien sûr, voilà, nous encourageons tous les auditeurs à se procurer les milliards perdus de Bruxelles, le Valeurs Actuelles, qui est dans les kiosques depuis avant-hier. Merci et
beaucoup,
à la semaine prochaine.
Au revoir.
Zone libre.
Et pour la zone libre, j'accueille l'homme de l'ombre, celui sans qui Radio Courtoisie ne serait rien, Louis Rigaudière.
Merci Richard, chaque fois vous me mettez à l'aise avant mes interventions, c'est très sympa. Alors bonjour à tous, j'avais envie, je trouvais pas beaucoup de sujets au niveau de l'actualité française, en tout cas pas de sujets qu'on avait déjà traités. Je me suis tourné, vous avez l'habitude de le faire aussi Richard, de lire un petit peu l'actualité américaine, hein, des journaux américains, et j'ai regardé le New York Post, le site internet qui republiait une vidéo qui a déjà un an, mais qui avait un sujet très intéressant sur une question que je me posais régulièrement. Pourquoi, quand on regarde des anciens films ou d'anciennes photos, les gens paraissent plus vieux qu'aujourd'hui? C'est-à-dire quelqu'un qui a mon âge, par exemple 32 ans ou la vingtaine, il en paraît parfois le double. Et c'est vrai, quand on regarde des films de Clint Eastwood, on a du mal à croire qu'il a à peine 30 ou 40 ans, alors qu'il en fait déjà 50. Et c'est vrai que c'est général, hein, et sur tous les plans. Eh bien, New York Post a étudié la question et il y a des explications très rationnelles à ça. Et je vous les livre, hein, j'ai pris quelques notes. Alors déjà, 1. Le soleil. Autrefois, les gens s'exposaient longuement, sans protection, ce qui accélère le vieillissement de la peau. Et oui.
Et ce qui est très bon pour la santé aussi, ceci.
Oui, mais alors, ça tout dépend, c'est une question de quantité, hein. Il ne faut pas non plus trop abuser. Aujourd'hui, l'usage régulier de protection solaire préserve mieux la peau. Et donc forcément les rides. Donc c'est évite les rides en tout cas. Les soins du visage, donc c'est directement lié. Dans le passé, la routine se limitait souvent à du savon simple. Aujourd'hui, beaucoup utilisent des produits qui réduisent les rides, raffermissement la peau et retardent le vieillissement. Autre point, très important celui-là, le tabac. Et oui, parce qu'évidemment, presque tout le monde fumait autrefois, ce qui abîme l'élasticité de la peau, provoque des rides là encore et un teint terne. Comme on fume beaucoup moins, la peau vieillit plus lentement. Ensuite, les vêtements. Les hommes s'habillaient autrefois en costume, chemise et chaussures habillées, même jeunes, ce qui leur donnait un air beaucoup plus mature.
Et, oui.
Et aujourd'hui, les adultes portent souvent des tenues décontractées ou sportives, ce qui fait paraître plus jeunes, forcément. Oui. Et enfin, la société moderne. L'image de la masculinité a changé. Les héros d'action étaient autrefois très musclés et imposants. Aujourd'hui, ils sont souvent plus minces, plus sensibles et paraissent plus jeunes. La société valorise davantage une apparence juvénile à une personnalité moins brute.
Finalement, c'est vous qui en sortez bien, Richard.
Non, mais c'est quand même
Louis est dans une situation déplorable.
Non, mais ça montre vraiment l'évolution globale.
J'ai raison de ne pas changer depuis que je suis petit, en fait. Voilà.
Donc voilà. Ouais.
Je savais bien que ça finirait par payer un jour.
Et donc, les hommes paraissent réellement plus jeunes aujourd'hui. Même si la baisse d'hormones joue un rôle, les principaux facteurs sont positifs. On prend bien mieux soin de sa santé et de son apparence, moins de tabac, protection contre le soleil, meilleurs soins, etc., etc. Donc c'est intéressant, j'ai trouvé vraiment cette vidéo très intéressante que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui est traduite automatiquement par l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, voilà, c'est sur une question qu'on se pose beaucoup, il y a vraiment des réponses scientifiques à tout ça et c'est très intéressant.
Très bien, très bien. Alors j'avoue que du haut de mes 61 ans, je ne me posais pas trop la question de l'âge de Clint Eastwood dans ses vieux films, mais voilà, maintenant j'y serais plus attentif. Et vous, Alexandre de Galzin, qui êtes le modèle de cette nouvelle génération qui fait attention à sa peau, évite tous les excès, voilà, ne s'expose pas au soleil.
Ça c'est typiquement une excellente définition de ma personne. Mais...
Et je tiens à dire qu'avec alexandreatrc.fr, vous pouvez avoir accès à un magnifique spécimen d'une manière très simple.
Ça va poursuivre longtemps cette histoire, j'en regrette déjà. Louis parlait de science, moi aussi j'aimerais rester dans ce domaine-là, mais plus dans le domaine de la biologie, vous me connaissez, hein, c'est un petit peu ma passion des zones libres. Je voudrais parler de ces gallinules poules d'eau qui mangent les fientes des mouettes dans les étangs en Bretagne.
Bien sûr, métaphore de LFI, non pardon, excusez-moi.
Très bien ça. Faut savoir que ça fait quand même quelques années qu'il y a des chercheurs, notamment Gilles Pichard, que vous connaissez bien d'ailleurs, vous preniez un verre avec lui la semaine dernière, il me semble.
Tout à fait. Voilà, Gilles, si tu nous écoutes.
Qui observe des gallinules poules d'eau donc bah, que vous connaissez tous, hein. Enfin, j'ai pas besoin de décrire la galerie d'une poule d'eau, ça semble assez évident.
Oui, c'est évident.
Et voilà, en fait, qui fouille les déjections des mouettes à la recherche de repas non digérés, donc qui mangent des fientes, notamment dans l'étang de la commune de Pléneuf-Valandré. Voilà.
On vous offre 32 secondes de radio et c'est uniquement pour le plaisir de prononcer trois fois le mot fiente.
Plus pour le plaisir de prononcer galerie d'une poule d'eau, que je trouve quand même plus amusant. Mais,
Ce qui est remarquable, effectivement, dans la manière dont fonctionne le cycle de la vie, c'est la façon dont, systématiquement, il y a une exploitation de ce qu'on appelle maintenant dans l'industrie les coproduits et non pas les déchets, puisque l'ensemble des déjections, effectivement, ne sont pas totalement digérées.
On voit ça en politique aussi, d'ailleurs.
Hein, bien sûr.
De façon. C'est-à-dire que la réexploitation des déchets... Enfin, vous voyez Jean-François Copé qui veut rejoindre Horizon, par exemple. Ça me paraît un excellent exemple. Est-ce que Édouard Philippe ne serait pas une sorte de galinule poule d'eau des Républicains? C'est une sorte de question
qu'on peut se poser. Effectivement, c'est dans les poubelles de l'histoire que les LR font une partie de leur beurre. Si j'ose... Voilà. Ça me paraît fructueux. J'attends que votre prochaine chronique porte comme ça sur ce recyclage politique.
Voir une grande théorie peut-être dans un essai un jour chez Grasset, voilà.
Oui, mais maintenant Grasset est devenu infréquentable, c'est le moment où nous pouvons
c'est le moment, c'est le moment où je peux rentrer.
Ça y est. Donc, chers auditeurs, voilà, une fois que vous aurez pris contact avec Alexandre en fonction de son email, n'hésitez pas aussi à lui envoyer vos manuscrits, il est devenu lecteur chez Grasset. Merci beaucoup Alexandre de Galzin, merci beaucoup Louis Rigaudière. C'est le moment de prendre congé de vous tous sur YouTube et sur X, mais vous pouvez continuer évidemment à nous écouter par les ondes hertziennes, par DAB, par tous les moyens possibles et imaginables, car Radio Courtoisie est partout disponible. Il lui manque juste 2 ou 3 coups de pouce. Voilà, vous êtes nombreux à nous soutenir, quelques milliers. Si jamais on pouvait atteindre 20 000, ce serait sympa. 1 euro, 2 euros, tout fait ventre.
Voilà, votre coup de pouce est essentiel à la survie de Radio Courtoisie. Alors pour nous donner ce coup de pouce, faites-nous un don en ligne sur soutenir.rc.fr et adressez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Et nous réécoutons tout de suite l'entretien avec Véronique Le Floch sur les luttes paysannes. La France souffre et elle en parle très bien.
Ligne droite. Debout les Français.
Et debout les Français, ce sera avec Véronique Le Floch, qui a été présidente de la coordination rurale et qui vient d'apparaître dans le Zoom. Merci beaucoup. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors, c'est aujourd'hui la journée mondiale des luttes paysannes. Alors, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire que c'est journée mondiale, mais en tout cas, ce sont des luttes très concrètes en France. Quand on ouvre les journaux, il y a des phrases qui sont absolument stupéfiantes, comme ces agriculteurs qui nous disent « j'ai décidé de ne pas semer ce printemps parce que le prix du gazole a explosé et qu'ils se demandent si ce est rentable, en fait, de cultiver les champs qu'ils possèdent ».
Eh bien, tout à fait. On est tous aujourd'hui confrontés aux conséquences de la guerre en Iran et qui s'étale, et des guerres auxquelles se mêlent les États-Unis, comme il vient d'être dit. Et à un moment, on se dit on a suffisamment de problèmes chez nous pour déjà tenter de les résoudre avant d'aller résoudre les problèmes des autres. Aujourd'hui, la consommation de carburant dans nos fermes et à l'hectare, parce qu'on travaille des terres, est telle que les questions se posent. Et je suis productrice en bio, et vous savez très bien qu'en bio, eh bien, c'est pas sans coût non plus. Il faut rappeler que quelqu'un qui ne va pas agir contre des maladies des plantes va le faire d'une autre manière qui sera mécanique, avec plus de passages de tracteurs, avec une consommation de carburant qui sera aussi, elle, proportionnelle. Donc, tout ça, c'est le combat des agriculteurs qui, aujourd'hui, sont relégués en arrière-plan, ne sont plus considérés. Mais là où je voudrais revenir, c'est la journée mondiale de l'exploitation, en fait, on va dire paysanne, de la lutte paysanne. Et elle date à 30 ans. Cette journée a été décrétée quand des agriculteurs ont été tués au Brésil. Il s'agissait d'agriculteurs qui avaient des revendications existentielles. Aujourd'hui, nous, en France, contrairement à eux qui veulent juste conserver le droit de travailler sur des terres plutôt que d'avoir cet accaparement par la finance. Et bien nous, nos revendications, elles ne sont pas existentielles, elles sont encore aujourd'hui économiques. Le droit de produire et de gagner sa vie. On ne demande pas grand-chose. On veut juste contribuer à ce qui est essentiel, se nourrir. Mais, et je finirai là-dessus, on voit bien que quelque part, on rentre dans une lutte existentielle aussi. Il suffit de se rappeler les attaques des forces de l'ordre en Ariège contre les agriculteurs qui voulaient défendre leur outil de production, leurs vaches. Et les forces de l'ordre avaient été envoyées contre nous parce qu'ils avaient décidé que l'on soit d'accord ou que l'on ne soit pas d'accord, nos vaches allaient être abattues à cause de la dermatose bovine. Sur un bovin, on abat 200 bovins. Donc ça, c'est plus normal. Quand vous, des agriculteurs, décident début 2025 d'aller sur Paris en tracteur et qu'avec des bonnets jaunes, ils sont interpellés, 135 euros d'amende, qu'on met des blindés face aux agriculteurs encore cette année lorsqu'ils montaient sur Paris, ça veut dire que nos revendications deviennent aussi en France existentielles. Parce qu'on se pose la question si nos politiques ont encore cette volonté de nous maintenir vraiment, de nous laisser un peu de place.
Alors, et il y a effectivement quelque chose de tout à fait surprenant et désolant, c'est la manière dont, au moment du Salon de l'agriculture, le monde politique se mobilise ou prétend se mobiliser pour les paysans. Le paysan est fêté comme un héros et quelques semaines plus tard, le gazole agricole a explosé. Je crois qu'on dit en décembre, c'était 0,90, 0,95 le litre TTC. Et maintenant, on est passé à 1,85 €. Autrement dit, le prix a doublé. Et le gouvernement explique qu'il va étudier peut-être quelque chose qui, à terme, finirait par diminuer légèrement le prix à la pompe. Donc, le monde agricole est en permanence un sujet gênant pour le gouvernement qui l'écarte et qui n'est pas capable en fait de poser de vraies solutions sur la table.
Pourquoi pas au moins l'exonération telle que l'ont obtenue les pêcheurs et pourquoi pas cette exonération pour tous les Français? Enfin, on est tous en fait concernés. Tout travailleur qui a besoin de sa voiture paye son carburant. À un moment, on se dit que cette lutte, elle va déraper au final, parce que les réponses ne sont pas proportionnelles aux attentes des citoyens qui, s'ils avaient ces exonérations, rapporteraient bien plus à l'État. Parce qu'au final, comme ça a été dit en tout début d'émission, eh bien, on ne produira peut-être pas. Et si on ne produira pas, eh bien, on va perdre notre souveraineté encore un peu plus et on deviendra dépendant encore un peu plus et ça nous coûtera au final plus cher parce que les pays exportateurs, eux, répercuteront leur hausse.
Voilà. Et donc, effectivement, on est en face d'un monde agricole qui est prêt à ne pas semer, donc à ne pas récolter, avec les cascades en chaîne que ça implique. Voilà, si je ne sème pas mes céréales, ben, je ne nourrirai pas mon bétail, etc. Ou au contraire, je n'alimenterai pas les minoteries qui ne pourront pas produire de farine pour l'ensemble des produits qui en utilisent. Face à ça, il y a une loi d'urgence agricole qui est discutée en ce moment. Que pensez-vous de cette loi d'urgence agricole?
Alors, pas grand-chose de positif, puisqu'en fait, on sait très bien que pour aller vite, il faudrait tout simplement déjà commencer par publier tous les décrets qui n'ont pas été, qui ne sont pas encore sortis suite à la loi du plomb, par exemple. Donc, le gouvernement passe à autre chose alors qu'il n'a pas achevé les précédents textes sur lesquels ont travaillé des députés et des sénateurs pendant plus de 2 ans et demi sur le texte de la loi d'orientation agricole. Un texte de loi d'orientation agricole qui s'appelle loi Losarga pour le renouvellement des générations agricoles, mais qui n'a rien prévu pour alléger le coût des mutations, pour alléger les installations, on va nous faire croire qu'on va encore tout refaire, même si on va davantage peut-être se concentrer sur certaines molécules, sur l'eau. Mais c'était déjà le cas il y a 2-3 ans. Donc finalement, à un moment, on est en droit de ne plus les croire. On est en droit de se dire que, eh bien, soit le combat dans la passivité ne fonctionne pas. Je pense que ce mode de combat nous permet d'expliquer, et on remercie toutes les radios, tous ceux qui nous donnent la parole pour expliquer notre métier, pour dire que c'est un métier passion, c'est un métier dont on ne compte pas nos heures. Et donc, le rapport à l'heure, c'est franchement pas ce qu'on recherche, parce que sinon, on aurait arrêté depuis très très longtemps, hein, entre des revenus négatifs et des faibles revenus de 2-3 euros de l'heure. Cette méthode, je pense que elle a fonctionné, enfin, maintenant on a fait ce travail. Une autre méthode qui nous est soufflée par des journalistes, par des personnes même qui interviennent, comme Pascal Péry, je me souviens aussi, qui nous le disait, si vous ne faites pas peur, vous n'obtiendrez rien. On va dire la méthode coordination rurale, bonnet jaune, sud-ouest, on y va, on monte à Paris, finalement, bientôt on se demande si leur faire peur, rien ne leur fait peur, finalement. Ils mettront les forces de l'ordre, ils mettront les blindés, ils réagiront proportionnellement et en conséquence. Et finalement, le résultat, en tout cas, il ne sera certainement pas plus rapide. Il nous reste une autre méthode d'action, c'est un autre mode d'action. C'est certainement cette convergence des luttes. C'est ce qu'on avait commencé avec les gueux il y a un an, au moment des ZFE, et aujourd'hui encore avec tout ce mouvement, avec les pêcheurs artisanaux, avec les boulangers, tous les artisans, avec les taxis, toutes ces professions. Alors, le mouvement Réveil des terroirs est né. Peut-être que ça sera autre chose, mais il y a déjà cette convergence qui devrait permettre à tout citoyen de dire ce qu'il a à dire et d'agir auprès des politiques, et surtout que dans un an, nous avons des élections présidentielles et qu'il va bien falloir qu'ils nous entendent si à un moment, on n'arrive pas à un épisode, je ne dirais pas gilet jaune bis, mais c'est comme si c'était un peu cette révolution-là qu'ils cherchaient.
Merci beaucoup Véronique Le Floch. Je rappelle que vous avez dirigé la coordination rurale, que vous êtes éleveuse de bovins et productrice de lait dans le Finistère. Tout à l'heure, nous recevrons François Bousquet pour parler d'un autre type de crise. Face à la crise du monde agricole, on sent que les pouvoirs publics sont prêts à passer en fait le monde agricole français par pertes et profits. Vous avez mis en avant les modes d'action de la coordination rurale. Il y a encore des dépôts de carburant qui sont bloqués par les membres de la coordination rurale. Effectivement, il y a l'idée d'aller au conflit parce qu'on a l'impression que c'est la seule chose que le pouvoir est capable d'entendre sur ces blocages de dépôts de carburant. Là, pour une fois, les CRS n'ont pas chargé avec les blindés. Ils se contentent de relever les plaques des tracteurs pour pouvoir mettre des amendes. On sent malgré tout le pouvoir gêné, prêt à lâcher un peu sur la gestion de l'eau, prêt à lâcher un peu sur les pesticides. Il y a au moins deux ou trois petites solutions qui se dessinent.
Tout à fait, mais est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que c'est encore quelques miettes, comme les quelques centimes sur le carburant, alors que il aurait fallu aller beaucoup plus loin? Donc, non, je pense encore que c'est de l'affichage, mais ce qui est sûr, c'est que les forces de l'ordre n'aiment pas taper sur une profession qui, comme la leur, est utile à la sécurité de notre pays. Ils interviennent pour notre sécurité en termes généraux, mais nous, nous sommes là aussi en termes de sécurité alimentaire, comme tout le monde médical l'est pour la sécurité médicale. Donc, finalement, je pense qu'on va devoir s'auto-protéger et pour dire on est tous des citoyens, quel que soit notre métier. Et bien sûr, il faudra prendre tout ce qui est bon pour chacun des citoyens, mais à un moment, la France ne peut pas reculer en permanence, considérer tous les citoyens comme des vaches à lait et ne faire que prendre. Je me souviens de l'intervention d'un parlementaire et j'avais vérifié ses chiffres. Avec l'inflation, l'État, c'était plus de 100 millions ou 100 milliards même, je ne sais plus tellement les chiffres deviennent grands, de TVA en net en plus. À un moment, il faut savoir où va cette TVA supplémentaire que l'été. Donc les citoyens veulent bien qu'il y ait de l'inflation, mais si on ne sait pas où va l'argent collecté en plus par l'État, eh bien on doit tous s'y opposer et on a le droit à cette transparence.
Je voudrais revenir sur ce que vous disiez, dire cette fameuse loi Duplomb qui a alimenté toutes les discussions des années durant. Vous nous dites que les décrets ne sont pas publiés. Là aussi, c'est cette espèce de d'étonnement navré, dire une loi est votée, on présente ça comme un triomphe, et après l'administration décide que la loi en fait est inefficace puisqu'elle ne peut pas être appliquée. Quelle réponse vous donnent les politiques quand vous leur posez la question et alors quand sortent les décrets?
Eh bien, écoutez, ils sont sous tutelle et en général, le ministère de l'Agriculture lui-même travaille de concert avec le ministère de la Transition écologique, avec le ministère de la Santé, et même quand quelque chose est voté par au sein même d'une profession, d'un secteur d'activité, eh bien, on sent les freins qui sont encore tirés de la part d'autres secteurs. Et la volonté n'est pas de faire avancer les choses, alors que à partir du moment où c'est voté, eh bien nous on est en droit d'attendre à ce que ça aille vite.
Et là, ça ne va pas vite. Quelles sont les perspectives à très court terme dans la lutte, puisque donc, une fois plus, je le rappelle, c'est la journée mondiale des luttes paysannes. Quelles sont les perspectives à très long terme? Vous avez effectivement évoqué ce mouvement Réveil des terroirs. Voilà, est-ce que c'est un espoir en quelques secondes?
Bien sûr que on a tous les mêmes problèmes, du moins ceux qui tentent de créer de l'emploi, de maintenir des entreprises françaises, des petites, des grandes, des moins grandes, enfin toute activité qui peut créer de la valeur, qui s'inscrit dans la production, dans la création d'emplois, qui est aujourd'hui, qui sont tous ces professionnels qui sont inquiets. Le fait de dire que beaucoup de combats sont communs, la fiscalité, nos retraites, le social, les charges sur nos salaires, donc tout ça devient insupportable et non durable dans le temps. Et donc c'est tous ensemble qu'on peut espérer franchement changer les choses. Dans tous les cas, on parle de beaucoup de plans sociaux au niveau français, on parlait encore de Stellantis, mais au niveau agricole, c'est quand même chaque année 10 000 fermes qui ferment, et là c'est un vrai plan social, et je pense que plus c'est gros, moins c'est visible, mais pour autant, ça devient très inquiétant par rapport à notre souveraineté alimentaire.
Merci beaucoup Véronique Le Floch, bon courage et j'ose pas vous dire à bientôt sur Radio Courtoisie, mais en tout cas sachez que nous sommes de tout cœur avec vous.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Merci beaucoup chers auditeurs d'avoir été avec nous toute cette matinale et une dernière fois, on va vous demander de nous soutenir, alors pas de nous soutenir une dernière fois, soutenez-nous tous les jours, d'ailleurs envoyez-nous des bonnes pensées, envoyez-nous aussi de temps en temps un petit euro, allez deux, voilà, ça nous permettra de boucler le budget.
Effectivement, votre soutien est nécessaire chaque jour que Dieu fait, donc nous vous remercions à l'avance de nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et puis également d'envoyer vos chèques à la radio par la poste à Radio Courtoisie 61 Boulevard Murat, 75016 Paris.
Et ça vous permettra d'écouter des émissions épatantes comme celle de Michel Soyer tout de suite, mais
dans un instant, effectivement, en direct, dont le sujet sera « La politique est-elle un métier ?». À midi, en direct, le Libre Journal du Théâtre, dirigé par Jean-Luc Génère, l'espace Bernanos et sa nouvelle création « Un mauvais rêve ». À 17h, Histoires à la loupe de Patrick Simon, document d'archives du 18 octobre 2024, consacré à Farewell, la taupe française du KGB, troisième et dernier épisode. À 17h30, en direct, Restons Courtois, dirigé ce soir par Marc Baudrier, à suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie ainsi que sur X et le sujet du jour. Après la commission d'enquête, le service public fera-t-il sa révolution? À 19h30 en direct, le Libre Journal de Lucien Rabouille. Et puis ce soir à 23h, Chant Grégorien, proposé par Patrick Bonken. Une émission consacrée cette semaine au deuxième dimanche après Pâques.
Eh bien, merci beaucoup Arnaud. Et je ne vous dis pas à demain, car demain c'est samedi. Je vous dis à lundi.
À lundi.